Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, un invité revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Gilles Prilot. Bonjour Gilles Prilot.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Gilles Prilot, vous êtes archéologue à Somme Patrimoine et vous êtes spécialisé dans l'archéologie de la Grande Guerre. C'est comme ça qu'on dit ?
Oui, c'est comme ça qu'on dit, en sachant que moi j'ai plusieurs casquettes et il y a un grand écart chronologique entre mes différentes activités de recherche, puisque je travaille à la fois sur l'époque gauloise et la production du sel à l'époque gauloise,
ouais,
jusqu'à l'étude des vestiges de la Grande Guerre. Vous voyez, c'est un peu particulier.
Alors Gilles Prilot, vous avez choisi comme journée particulière le 12 mai 2014. Ce jour-là, vous faisiez une découverte extraordinaire dans la grotte de Naour. Vous avez découvert des milliers de graffitis réalisés par des soldats de la Grande Guerre.
Nous sommes à mi-chemin entre Paris et Lille, en pleine Picardie. Là, sous la terre, à 33 mètres au-dessous du sol, court une ville souterraine connue sous le nom de Grotte de Naour. Creusée vers le 9e siècle, à l'époque des invasions normandes, ces souterrains s'étendent sur plus de 2 km. Il s'agit bien d'une ville avec ses places, son calvaire, ses rues qui s'enchevêtrent. Une ville qui servit de refuge aux habitants de la région au cours des nombreuses guerres qui ravagèrent la Picardie.
C'est une archive INA de 1958, Gilles Prilot. La grotte de Naour est une attraction touristique depuis le 19e siècle, une curiosité locale de la Somme qui est visitée chaque année par des milliers de touristes.
Oui, tout à fait. C'est un site qui accueille entre 50 et 60 000 personnes tous les ans. C'est un endroit que je vous conseille. C'est très bucolique. On s'enfonce dans la terre. C'est une destination familiale très sympathique. Je suis un habitant de Naour. C'est mon village.
Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ce 12 mai 2014? Vous êtes là pour essayer de préciser les périodes d'occupation de la grotte pendant la guerre de 30 ans?
Tout à fait, parce que le premier fouilleur du site, c'était le curé du village, l'abbé d'Anicourt, qui en 1887 redécouvre le site et il raconte une histoire. On est quand même dans cette période du 19e, de ces salons d'antiquaires et toutes ces choses-là. On essaie de raconter de belles histoires. Alors, je voulais repréciser un petit peu des informations qu'avait publiées l'abbé d'Anicourt en tentant de retrouver des lambeaux de sol archéologiques ou des traces laissées sur les murs. C'était un peu le point de départ de ma recherche.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là avec votre torche. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi.
D'abord, j'étais avec ma torche en train de regarder mes pieds puisque j'étais en train de gratter avec ma truelle dans l'espoir de retrouver des indices permettant de préciser la datation. C'était le cas. J'étais là. Ma grande surprise, d'ailleurs, la plupart de mes collègues me disaient « Mais qu'est-ce que tu veux trouver dans un site qui est piétiné par 50 à 60 000 personnes tous les ans depuis des décennies et des décennies ?» Mais bon, le défi ne me fait pas peur. Et puis, en quelques minutes, eh bien, je trouve quelques pièces de monnaie en cuivre qui datent de la guerre de 30 ans. C'est la première grande surprise. Quelques balles de mousquet et puis des morceaux de poterie. Alors, pour moi, c'était vraiment... grande surprise, puis jackpot, et puis au final, presque ma mission pouvait s'arrêter là. J'avais les éléments nécessaires pour préciser la datation du site. Et puis, en compagnie de mon ami Frédéric Carrette, qui lui est plus spécialisé dans la recherche des traces, justement, de la guerre de religion, de la guerre de 30 ans, il explorait les murs, les parois, il m'appelle en me disant... il faut que tu viennes voir ça, il y a quand même beaucoup d'inscriptions de la Grande Guerre dans un secteur. Et oui, je me souviens très très bien de ce moment, on déambule pendant quelques dizaines de mètres dans un couloir très étriqué, Et je rentre dans une pièce qui était plongée dans l'obscurité depuis 100 ans. Et un grand coup de lumière, un grand coup de torche. Et là, ce sont des dizaines, des centaines d'inscriptions faites au crayon de bois, d'une fraîcheur incroyable. On a vraiment l'impression qu'elles ont été faites il y a deux minutes. C'est un noir profond sur la paroi blanche de la craie. C'est très saisissant. Et là, oui, ça a été le choc, véritablement. Et je dois bien même vous avouer que à partir de ce moment-là, j'ai vraiment délaissé la partie archéologique plus ancienne pour me consacrer jusqu'à même aujourd'hui à l'étude de ces traces.
Mais ce jour-là, ce 12 mai 2014, vous comprenez de quoi il s'agit quand vous voyez ces inscriptions? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? C'est quoi ces inscriptions? Parce que vous vous rapprochez avec votre torche.
J'ai un collègue qui a une belle définition pour décrire comment j'étais à ce moment-là. Il me disait, tu étais comme une poule devant une fourchette. En clair, je ne comprenais pas ce que je voyais. Je voyais l'intérêt historique parce qu'il y avait des dates, 1916, 1917.
Donc là, vous saviez que c'était la Grande Guerre.
Grande Guerre, assurément. Beaucoup d'indications qui relataient le fait qu'elles étaient australiennes pour la plupart. Donc ça va. Mais après, vous voyez S.C.WADE, 9TH, 5COY, AIF. Ça, c'est du code. Et puis aujourd'hui, je sais que c'est une inscription qui a été laissée par un soldat qui s'appelait Stuart Cecil Wade, du 9e bataillon de la compagnie 5 et AIF, Australian Imperial Force. À partir de là, je pouvais aller passer de l'autre côté du miroir.
D'accord, mais le 12 mai, vous ne comprenez pas ce que vous voyez. Vous comprenez pas de quoi il s'agit. Enfin, vous savez que c'est des inscriptions qui datent de la Grande Guerre, mais vous ne savez pas les déchiffrer.
Non, et je comprends juste qu'il y a quelque chose d'anormal parce qu'il y a une très grande quantité et elles sont très stéréotypées. C'est-à-dire que ces inscriptions ont été faites très très majoritairement au crayon de bois, sur de toutes petites surfaces. Il faut imaginer des petits carrés de 4 à 5 cm de côté, et pourtant, dans ce petit espace d'expression minuscule, eh bien, les soldats australiens vont laisser énormément d'informations. Numéro de matricule, leur prénom, les noms, leur bataillon, leur ville de naissance. Et donc ça me surprenait complètement. Pendant plusieurs jours, j'étais dans un flottement, je ne savais pas par quel bout prendre. Et puis le hasard d'Internet fait que le gouvernement australien a mis en ligne et libre de droit l'intégralité des archives de tous les soldats australiens engagés dans le conflit. Et là, ça a été une grande porte qui s'est ouverte à ce moment-là.
L'émotion était indescriptible quand ?
L'émotion, elle est surtout venue quand j'ai compris et quand j'ai pu mettre un nom, un visage derrière ces noms. Et le premier jour où je me souviens très bien, c'était un soldat qui s'appelle Norman Dougal, où je retrouve sa photo. J'ai tout son parcours militaire, blessé à plusieurs reprises, et puis il meurt quelques mois après être passé à Naour, brûlé par un lance-flamme. Et voilà, donc j'ai commencé à dérouler comme ça toutes ces histoires de soldats qui relèvent parfois de l'extraordinaire.
Alors on va y revenir, Gilles Prilot. Est-ce qu'on peut dire que ce 12 mai 2014, c'était la découverte de votre vie? Vous, archéologue, vous avez fait là ce qui semble être votre grande découverte.
Mais je l'avais pas vu comme ça, mais le fait que je suis encore baigné complètement, même si j'ai une autre activité en parallèle, mais sur mon temps personnel en grande partie, le matin, en me levant, à 5h du matin, la première chose que je fais, c'est ma correspondance avec des tas d'Australiens qui veulent absolument voir le graffiti laissé par leur ancêtre. Donc c'est une dimension importante, oui. Donc une grande découverte de ce point de vue, parce que ces inscriptions étaient plongées dans l'obscurité, parce que ce site était visité par des dizaines de milliers de personnes tous les ans, et jamais personne n'avait eu juste l'idée d'éclairer les parois.
En 2014, Gilles Prilot, on écoutait ça.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change.
dress, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, adivido. Oh, to you, ooh, ooh, adivido. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Une journée particulière, ça continue jusqu'à 15h sur France Inter avec Gilles Prilot, archéologue de la Grande Guerre. Gilles Prilot, vous avez choisi comme journée particulière le 12 mai 2014. Ce jour-là, vous découvriez par hasard, dans la cité souterraine de Naour, des milliers de graffitis réalisés par les soldats de la Grande Guerre. Voilà ce qu'on a pu lire dans la presse à propos de votre découverte. Le journal La Croix, titre « À Naour, la Grande Guerre a laissé des traces de crayons ». Le courrier Picard parle d'une brusque remontée dans le temps. À 30 mètres sous terre, la cité de Naour renferme un véritable trésor. Poignante de simplicité et de fragilité, ces inscriptions ont été léguées par des Anglais, des Australiens, des Écossais et des Indiens. Géo y consacre un dossier spécial. Émouvant fantôme de la Grande Guerre, William, Rodolphe, Alan, Stuart sont des gamins qui ont déjà un siècle, les prénoms de ces soldats s'étaient perdus dans les limbes de l'histoire. Et je me suis dit, Gilles Prilot, que c'était exactement ça que vous faisiez, vous, c'est que vous avez sorti ces soldats des limbes de l'histoire en étudiant leurs graffitis. Vous avez cherché à comprendre qui ils étaient. Qui étaient-ils ? La plupart d'entre eux des Australiens, vous dites ?
Une grande majorité donc australiens. Il y a 3200 traces répertoriées à Naour. Plus de 2000 s'apparentent aux soldats australiens. Alors qui sont-ils ? Ce sont des jeunes, une vingtaine d'années, 20-25 ans, enrôlés dans l'état du Queensland, dans l'état de Victoria, partis pour la grande aventure.
Vous dites la grande aventure ?
C'est la grande aventure pour eux, c'est évident. Ils veulent participer à l'effort de guerre en Europe, ils veulent venir en Europe. Donc on traverse les océans en bateau, ils arrivent à Gallipoli, les Dardanelles, l'actuelle Turquie. Et là, c'est un massacre véritablement. Un Néo-Zélandais sur 10 posant le pied à Gallipoli sera tué. Et c'est une défaite complètement terrible. Les Australiens vont reculer, ainsi que les Britanniques. Passage en Égypte, on arrive à Marseille, on remonte toute la France, ils vont en Belgique. Et puis après, c'est l'enfer de la Somme. C'est à partir de ce moment-là, on va avoir les premiers témoignages sur la cité souterraine de leur passage. Alors ce qui est troublant, c'est que là, beaucoup d'entre eux laisseront leur signature. Et il est parfois, j'ai pu mettre en évidence que parfois c'était le dernier témoignage écrit qu'ils ont laissé. Avant de se battre et de mourir. Hein, beaucoup vont mourir. Et oui, effectivement, c'était des traces qui étaient plongées dans le noir. Le fait que j'ai commencé à pouvoir les décrypter, à pouvoir aller un petit peu derrière ces traces, à remettre un visage, à avoir des contacts avec les descendants, avec la famille, tout ça est quelque chose de très fort, très très fort pour moi.
Oui, c'est ça, c'est une grande... Je sais que vous vous êtes attaché à ces personnages, vous les avez incarnés, vous leur avez redonné vie d'une certaine manière, ou vous honorez leur mémoire, c'est tout ça que vous faites.
C'est un peu ça, parce qu'au bout d'un moment, on rentre un peu en complicité, eux et moi, tout seul derrière mon ordinateur quand je retrouve une photo de ces soldats avant-guerre et après-guerre, quand certains ont la chance de survivre et repartent au pays, de les revoir ici monter une entreprise de comptabilité, là repartir dans les fermes d'où ils étaient venus. Et puis je vous dis, le contact avec la famille, c'est vraiment très important. Il faut se rendre compte que la première guerre est vraiment le ciment et le fondement de la nation australienne et néo-zélandaise. Donc pour les Australiens, c'est extrêmement fort. J'ai vu des dizaines d'Australiens pleurer devant les graffitis de Nauru. Vous voyez, c'est même des enfants, des collégiens. J'ai deux fils, moi, vous savez, je connais leurs préoccupations du moment. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est très très fort pour les Australiens. Donc du coup, ça c'est quelque chose que je n'avais pas du tout vu venir, cette charge émotionnelle côté australien. Et je pense que j'aurais lâché l'affaire probablement s'il n'y avait pas eu cette dimension humaine derrière ces traces que j'ai pu révéler.
Oui, c'est ça, parce que moi j'ai appris en vous recevant, 400 000 Australiens se sont engagés dans la Grande Guerre. 50 000 tués, 150 000 blessés. J'imaginais pas que l'engagement de l'Australie avait été aussi important. Mais j'ai une question, Gilles Prilot. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette grotte de Nauru, dans cette cité souterraine, ces soldats? Ils se cachaient? Ils faisaient quoi?
Alors, ça c'est vraiment la plus grande surprise pour moi, hein, véritablement, puisque bon, il était convenu jusque avant mes recherches en 2014 que Nauru avait été occupé pendant la Grande Guerre par des soldats parce que c'était un hôpital. Bon, parce qu'il y a une sorte de, alors pas de légende urbaine, une légende rurale, ouais, qui veut que tout ce qui est sous terre dans les Hauts-de-France, dans la région Hauts-de-France, et qui porte des traces plus ou moins structurées de la Grande Guerre, c'est soit un hôpital ou un dépôt de munitions. Voilà. Sans aucune preuve, aucun témoignage. Donc tout le monde s'accordait sur le fait que Nauru était un hôpital pendant la Grande Guerre. Et puis un jour, j'ai le bonheur de découvrir un extrait d'un diary. Le diary, c'est le journal de guerre de soldats. Je connais par cœur cet extrait.
Dites-moi.
Quelques jours avant le passage à Nauru, ce soldat qui se nomme Alan Alsop écrit « Rien à faire. Nous étions censés visiter les cavernes de Nauru, mais le transport n'était pas disponible. » Deux mots-clés, visiter et le transport qui n'était pas disponible. Imaginez la sensation, je suis devant un mur blanc, il y a une date, le 2 janvier 1917, il est écrit Alan Alsop, Mossman, qui était dans la banlieue de Sydney, AIF pour Australian Imperial Force. J'ai son carnet sous les yeux, une copie, et je suis au 2 janvier 1917. Et là, il écrit, enfin, avec 10 de mes camarades, nous avons pu visiter les fameuses cavernes de Nauru. Le site est merveilleux. Une division entière pourrait rentrer ici avec hommes, chevaux, canons, etc., etc. Et là, c'était véritablement le point de départ. Non, ce n'était pas un hôpital. C'était un lieu de visite.
Touristique.
Presque touristique, en tout cas, pour les soldats qui étaient à l'arrière du front. Il fallait les occuper. Alors ça, il y a une donnée importante à comprendre.
20 km des lignes du front, oui, quand même, à la grotte de Nauru. Oui. C'est ça qu'il faut dire, qu'il faut préciser. Et là, il y avait un guide aussi, vous dites.
Il y a des guides, parce que j'ai plusieurs témoignages où on mentionne la présence de guides. J'ai la preuve maintenant qu'il s'agit de guides anglo-saxons, probablement australiens. Alors ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que les soldats passent grosso modo 15% de leur temps en première ligne. Et plus la guerre va avancer, et plus on va faire, améliorer ce turnover. Puis on passe en ligne de renfort, en troisième ligne, puis à l'arrière, en repos. On prend soin de soi, on va s'épouiller, on va se refaire
une
santé.
Il faut passer le temps.
Et il faut passer le temps.
Donc on visite la cité souterraine de Nauru.
On fait du sport.
Et on a son crayon dans sa poche.
On a toujours son crayon dans sa poche pour écrire à son épouse ou à sa famille.
Parce qu'on avait tous, ils avaient tous un crayon dans leur paquetage.
Oui.
Un crayon à papier.
Mais c'est un crayon à papier, c'est ça. Pour les plus fortunés, on a un crayon à mine d'aniline. C'est pour les plus anciens. Moi, je me souviens, j'avais mon boucher, Monsieur Pat, qui avait toujours ce crayon derrière l'oreille et qui le mouillait sur la langue. C'était une encre violette. Donc, alors, le souci, c'est que quand on écrit à l'encre violette comme ça, eh bien, la craie imbibe. Et du coup, ce sont des témoignages qui ne sont pas restés.
16 juillet. Il pleut légèrement. Au dîner, on a reçu l'ordre de nous tenir prêts à nous rendre sur la ligne de front. On a quitté le cantonnement à 8h45 du soir et on est arrivé dans notre tranchée à 3h du matin. 17 juillet. Il a fallu tenir quand les Allemands ont commencé à nous bombarder. Un officier et deux hommes sont morts juste à côté de moi. Et trois autres ont été blessés. J'ai été touché au cou et à la main droite. Mais ce n'est pas sérieux. Les Allemands nous bombardent en permanence. C'est la pire scène dont j'ai été le témoin. On a déclenché notre artillerie à midi. Mais les Huns n'ont jamais riposté cette nuit. 18 juillet. On a quitté la tranchée à 2h ce matin. J'ai bien dormi après les bombardements, mais j'étais terriblement nerveux. Nous avons regagné notre cantonnement vers 5h30 ce matin. J'ai pu redormir une heure. Alors, John Brown et moi, on est allés manger des œufs et du gâteau. J'ai reçu trois petits éclats d'obus dans la main ce matin.
Gilles Prilot, c'est une archive INA 2010, extrait de l'émission La Fabrique de l'Histoire sur France Culture. Et c'était le journal du soldat Harry Cressy, originaire de Sydney et qui a combattu aussi dans la Somme. Et je voulais faire entendre ce témoignage parce que c'est exactement ce que vous faites, c'est redonner une voix, incarner, donner corps à chacun de ces graffitis. Et vous avez pour ça mené une véritable enquête judiciaire, Gilles Prilot. Vous avez cherché un peu partout dans les archives, recherché des photos pour reconstituer des parcours, reconstituer des histoires. Parce que derrière chaque nom, il y a un homme et derrière chaque homme, il y a une histoire. Et puis vous vous êtes attaché à certains hommes plus qu'à d'autres.
Oui, bien sûr. J'ai parfois l'impression de prendre une sorte de crayon magique.
Oui.
Et puis de prolonger le trait de l'inscription du graffiti qu'ils ont laissé sur le mur. Et parfois ça m'amène à traverser l'océan, d'aller jusqu'en Australie, de passer sur les archives et d'aller taper à la porte d'une famille qui vient qui fait 20 000 km pour juste se recueillir quelques instants sur la trace laissée par leur ancêtre. On a déjà reçu environ une dizaine de familles depuis, et j'ai déjà en gros une dizaine de rendez-vous pour l'année prochaine, de familles qui préparent l'expédition depuis l'Australie pour venir voir ces traces, quoi.
Alors vous avez écrit un livre qui a été publié aux éditions Michelon et qui s'appelle Graffiti et bas-reliefs de la Grande Guerre, dans lequel vous relatez certaines histoires. Et moi, j'ai en tête un personnage, un aventurier, justement, qui s'appelle Blake. Mmh. Et vous êtes attaché à écrire des textes à la première personne pour retracer leur parcours. Vous dites « je ». Ouais. Est-ce que vous pouvez me lire un extrait texte que vous avez écrit sur ce Black?
Ce qui était important, c'est que dès que j'ai pu avoir beaucoup d'informations, je me suis dit, tiens, je peux parler à la première personne parce que tout ce que je vais dire, je sais le prouver et l'étayer. Rien ne sort de mon esprit, c'est l'accumulation des preuves. Alors, Black, je suis né le 28 octobre 1890 dans la banlieue de Melbourne, en Australie. Je suis un orphelin. Mes parents sont morts en 1892 et en 1897. Je n'étais qu'un enfant. C'est Tante Jeanne qui m'a élevé. Elle m'a permis de suivre une scolarité studieuse jusqu'à l'université de Sydney, qui me permettra d'obtenir un poste d'expert en géologie dans le département des mines du Queensland. J'ai passé des jours et des semaines à arpenter les vastes plaines de Gympie pour explorer et cartographier les gisements aurifères de cette région. J'étais un chercheur d'or.
C'est ça.
En 1911, Douglas Manson me propose de rejoindre son équipe scientifique pour entreprendre une expédition de 3 ans sur l'île Macquarie, un long caillou froid et hostile perdu entre la Nouvelle-Zélande et l'Antarctique. Je suis chargé de cartographier cette île. Je me souviens des conditions météorologiques épouvantables, mais aussi de moments merveilleux passés avec mes compagnons Hamilton et Hurley, avec qui nous avons partagé tant de bons souvenirs. Je me rappelle avec tant de plaisir ces heures passées à observer les manchots royaux et cet œuf que j'ai ramené chez moi pour études. J'étais un aventurier.
Et on voit la photo de l'œuf.
Hein, on voit la photo de l'œuf que j'ai retrouvée dans un musée à Aberdeen, en Écosse. C'était juste le truc improbable.
Alors moi, Blake, qui m'a marqué parce que c'était évidemment un chercheur d'or, qu'il va s'engager, il va perdre un bras, et puis il va être démobilisé, et il va rencontrer le roi d'Angleterre, qui lui avait remis une médaille pour ses recherches en Antarctique, et il va lui imposer d'être envoyé au front, parce qu'il veut continuer à aller se battre, et il va mourir à 28 ans.
C'est ça, quelques jours avant l'armistice. Il a été blessé à plusieurs reprises, et la dernière blessure est très grave, lui arrachant une partie des tendons du bras droit. Donc la guerre est finie logiquement pour lui, et Aimé Blake va faire jouer son influence auprès de l'administration pour pouvoir repartir au fond, vous rendez compte. Et donc il va être affecté à des tâches subalternes de logistique, en gros il va charger avec le bras gauche des camions d'obus. Et puis, en ce jour d'octobre 1918, eh bien, il y a un obus allemand qui se perd dans le ciel véritablement. On n'est pas en train de se battre et on n'est pas dans le cadre de pilonnage d'artillerie. Et puis cet obus traverse le ciel, se perd, et va tomber à l'aplomb du camion que Blake était en train de charger. Et il est enterré aujourd'hui dans un petit cimetière à Tincourt, dans la Somme.
Mais quand je vous écoute, Gilles Prilot, j'ai l'impression que vous parlez de vos amis.
Parfois, je me surprends à me dire mes soldats ou des choses comme ça. Alors, je suis pas du tout militariste au premier degré, non. Mais oui, il y a une relation. Je sais pas véritablement la qualifier.
Ce sont les vôtres.
Ben, il y a 4 ans, ils étaient dans le noir total. J'ai redonné un peu de lumière. Je les ai un peu réveillés.
Vous les aimez.
Oui, d'une certaine façon.
Alors moi, je pense à un jeune homme de 19 ans qui s'appelle John Harold. Et vous écrivez dans votre livre, tu as à peine 19 ans, tu participes à la bataille de la Somme et tu craques. Tu es atteint de ce qu'on appelle le syndrome d'obusite, c'est-à-dire syndrome post-traumatique. Mais surtout, ce que vous écrivez, graffiti hésitant, presque tremblant, laissé sur les parois de la grotte de Naour. C'est-à-dire, vous imaginez dans quel état psychique était ce jeune homme de 19 ans quand il écrit son nom dans cette cité souterraine de la Somme avant d'aller au combat.
Bien sûr. Et quand dans le bouquin Graffiti bas-relief, d'ailleurs à ce propos, je fais juste une petite parenthèse, je salue Dominique Bossu qui a fait à mes côtés un travail de photographie remarquable.
Ouais.
Oui, Ginné, ce jeune homme, on voit la photo, on dirait un gamin de 12-13 ans. Et effectivement, l'écriture est vraiment tremblante, tremblotante sur le mur. Et puis, alors, syndrome de l'obusite, vous vous rendez compte, on va inventer comme un terme médical.
Je savais pas que ça existait. Ouais,
chez les Anglais, on appelle ça le shell shocks. Et le syndrome de l'obusite, des hommes vont devenir véritablement fous à cause des pilonnages d'artillerie, à cause de l'angoisse, la peur de monter au front. Ils vont véritablement devenir fous, c'est irréversible. Et ce Ginné, oui, qui va, à force d'avoir les pieds plongé dans la boue, et le froid et l'humidité, on va lui couper une grande partie des orteils. Ça, c'était un grand classique chez les soldats, notamment durant l'hiver 15, où une grande partie des tranchées sont ennoyées. Et il va donc développer une gangrène, on va lui couper les orteils, et il va être réformé pour debility, qu'on peut traduire par dépression. Et oui, c'est vraiment un parcours... vraiment triste pour ce jeune gamin, quoi, qui repartira, mine de rien, amputé, mais il repartira vivant au pays.
Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours. De cette guerre infâme, c'est à Craon, sur le plateau, qu'on va laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier des chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre et la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leur bien. Car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes des sacrifiés.
Gilles Prilot, Crâne. Impossible de parler de la guerre de 14-18 sans faire écouter cette chanson.
Oui, je ne connaissais pas cette version un peu toilettée, un peu jeune, comme
un
ça.
Un peu jeune,
et
ouais.
Donc, ouais, c'est super émouvant.
Chanson qui a été censurée, hein,
ah oui, oui,
parce que subversive. Donc, Gilles Prilot, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant que vous êtes archéologue de la Grande Guerre et que vous êtes notre invité jusqu'à 15h sur France Inter, que ça fait des 30 ans presque maintenant, Gilles Prilot, que vous travaillez sur la Grande Guerre et que vous êtes passionné par votre sujet. Mais la découverte la plus extraordinaire que vous ayez faite, c'est celle du 12 mai 2014, quand vous avez découvert dans la cité souterraine de Naour des milliers de graffitis réalisés par ces jeunes soldats australiens pendant la Grande Guerre. Cette même année 2014, Gilles Prilot, vous participiez au Louvre-Lens à un colloque sur l'archéologie de la violence de guerre et la violence de masse. Et je vous avoue que je ne savais pas, Gilles Prilot, qu'il existait aussi une archéologie des camps de la mort nazie, ou une archéologie des charniers de la guerre de Bosnie-Herzégovine, ou encore du génocide des Tutsis au Rwanda. En quoi l'archéologie nous aide à comprendre les conflits autrement, nous aide à renouveler notre compréhension des conflits?
Alors, ce colloque était vraiment très très intéressant, puisque pendant 3 jours, l'idée était de partir de l'homme préhistorique et de dérouler, de tirer sur l'élastique, et déjà de comprendre et d'essayer de déterminer à partir de quand l'homme va entrer en guerre. Ah. Est-ce que l'homme préhistorique fait la guerre? À partir de quelles traces on peut, de témoignages archéologiques, que l'on peut s'appuyer pour pouvoir déterminer ou non qu'il y a guerre? Une blessure laissée sur un os n'est pas synonyme de geste guerrier. Ça peut être un accident de chasse, ça peut être une bagarre, ça peut être des choses comme ça. Néanmoins, il y a des faisceaux d'indices qui nous permettent de dire que, quand même, pendant le paléolithique, il y a des drôles de choses qui se sont produites à certains endroits, notamment des actes de cannibalisme avec des prélèvements de crânes dans certains endroits. Donc ça appelle à des choses. Mais grosso modo, à partir du moment où l'homme va commencer à amasser des pouvoirs, lorsqu'il va se sédentariser, lorsqu'il va y avoir la constitution de caste, d'élite, l'homme va protéger son bien, va vouloir développer, et la guerre commence comme ça. Alors après, on a remonté le temps.
Ouais.
Voilà, donc moi, je suis intervenu le deuxième jour sur l'archéologie des âges extrêmes. Et du coup, on se demandait, nous, avec mes amis Yves Desfossé, Alain Jacques, avec qui on a porté ces projets depuis de longues années. Il y a un livre fondateur qui s'appelle « L'archéologie de la Grande Guerre »,
ouais,
qui a été vraiment important pour nous. On se demandait si on était bien légitime dans ce colloque et au final, on voyait que on était vraiment bien à notre place parce que les organisateurs avaient, eux, tiré l'élastique jusqu'au plus loin. Effectivement, jusque l'archéologie des camps de la mort, sur les camps de la mort. Alors, là, il y avait quelque chose un peu particulier parce que c'est une archéologie non intrusive. On ne peut pas fouiller sur un camp de la mort. Donc, ce sont des recherches plutôt à l'aide de méthodes comme la géophysique.
Pourquoi on ne peut pas fouiller?
Parce que c'est une chape.
On ne peut pas fouiller à Auschwitz, par exemple.
Pour le moment, c'est juste impensable. Donc, c'est une approche extrêmement, pour l'heure, qui est très encadrée par les autorités. Et alors après, est-ce que les archéologues sont les bonnes personnes pour travailler sur les charniers de Bosnie-Herzégovine, sur au Rwanda, là où il y a, on peut être conseil au niveau des méthodes,
ouais.
Notamment dans la fouille de charniers, parce qu'on en a déjà fouillé un certain nombre plus anciens. Sur la méthode, je pense qu'on a vraiment aux côtés de médecins légistes, par exemple, on aurait vraiment toute notre place. Après, vous savez, sortir des charniers où il y a encore des chairs, des tissus, des vêtements, est-ce que ça relève véritablement de l'archéologie? C'est une vraie question. Je ne sais pas vous répondre.
En tout cas, vous, dans votre communication, lors de ce colloque en 2014, Gilles Prilot, vous parlez justement de l'archéologie de la mort de masse. Que pour faire une archéologie de la Grande Guerre, vous êtes confronté à parler d'archéologie de la mort de masse.
Les corps, au fur et à mesure qu'ils ont été retirés, sont emmenés par la gendarmerie directement à Verdun, à l'hôpital des Androuins, où ils sont pris entre les mains donc, du médecin légiste, Bruno Frémont, en l'occurrence. Et là, ils lavent tous les ossements, ils refont totalement les corps. Et c'est vrai que nous, au bout de 3 jours, on a été sur place et tous les corps réapparaissent. Ils les refont complètement, pour ceux qui étaient entiers, parce qu'il y avait aussi des morceaux de corps. Et là, on voit les blessures, C'est même effrayant.
On a pu retrouver sur un certain nombre de pièces osseuses, puisque bien sûr les parties molles ont disparu.
Bruno Frémont.
Toute une série de blessures de guerre tout à fait typiques. Hein. Par exemple, ici, nous avons un tibia dans lequel s'est fichée une shrapnel. Donc ce sont des petites billes de plomb qui étaient contenues dans des obus et qui explosaient, qui aspergeaient les soldats. On a beaucoup d'éclats métalliques qui sont fichés dans les os et qui sont donc tout à fait caractéristiques de ces blessures de 14-18, puisque c'est la première guerre où on a eu une telle intensité de mitraille qui a d'ailleurs débordé dans les premiers instants les services médicaux et qui n'étaient pas habitués à soigner des blessures autres que des blessures par arme blanche ou par balle. Les blessures, notamment par éclat d'obus, étaient des blessures extrêmement septiques. Et les gens qui ne mouraient pas de la blessure initiale mouraient dans les suites des infections qui étaient causées par ces éclats d'obus à une époque où on n'avait pas encore de vaccin pour le tétanos et où beaucoup de gens mouraient de gangrène dans les jours ou dans les semaines qui suivaient leurs blessures.
C'est un extrait d'un reportage de Alain Leskovitch diffusé sur France Culture en 2013 avec le responsable de l'ossuaire de Douaumont et le médecin légiste Bruno Frémont. Vous avez été amené, vous, Gilles Prilot, à retrouver des corps. Vous avez retrouvé des corps dans votre travail d'archéologue de la Grande Guerre.
Ah, bien sûr, il y a à nombreuses reprises. Il faut que vous sachiez quelque chose d'important, c'est qu'à la minute où on parle, il reste encore sur le champ de bataille les restes de 700 000 soldats qui n'ont jamais été retrouvés à l'issue des combats. Vous vous rendez compte? 700 000 hommes.
Non, je ne me rends pas compte. C'est inimaginable.
C'est inimaginable, voilà. Donc finalement, dès qu'on entreprend une fouille archéologique, ici pour une villa gallo-romaine, ici pour un cimetière mérovingien, ou que sais-je, si vous travaillez en Haute-France, vous découvrirez, avec des états de conservation plus ou moins bons, des restes de soldats. Alors parfois, c'est ici un bras, c'est ici un fragment de crâne qui sont dans les ondulations du champ de bataille, au sommet d'une tranchée, au sommet d'un trou d'obus. Et puis, parfois, vous avez des sépultures provisoires, vous avez des véritables charniers dans des cratères d'obus, des soldats allemands. J'ai cette image encore dans la Rajoie, où on avait découvert une vingtaine de soldats allemands posés sur 2 couches. Une tombe collective qui avait défrayé la chronique à l'époque des Grimsby Chums, une grande fosse allongée imaginée de 20 mètres de long dans laquelle ont été posés une vingtaine de soldats au coude à coude, arms in arms. Ça, ce sont des choses vraiment importantes parce que ça allait à l'encontre du code britannique. Et donc voilà, il y avait vraiment un
alors intérêt. Cette photo, elle est, j'ai vu la photo de cette fosse où tous les squelettes sont rangés les uns à côté des autres, coude à coude. C'est bouleversant parce que on se dit que là, dans la façon d'inhumer ses camarades, on montrait son attachement.
D'autant que le surnom de cette unité, c'était les Grimsby Chums, littéralement les potes de Grimsby. Grimsby étant un port du nord d'Angleterre. Donc, ce jour-là, les Grimsby Chums se perdent 42 hommes. 20 sont enterrés aujourd'hui au cimetière d'Arras. Il en manquait 22, donc parmi les 700 000. Et ce jour-là, en 2001, on en retrouve 19. Donc, ils ont voulu, à travers ce coude à coude, en anglais, c'est arms in arms. Mm-hmm. Vous savez, quand on resserre les rangs, le dernier rang comme ça.
On serre les coudes.
On serre les coudes, bien sûr, on serre les coudes. Eh bien, ils ont voulu, à mon sens, rappeler la fraternité qui les unissait.
Même la terre peut mourir. C'est ce que nous avons découvert au milieu des anciens champs de bataille, au nord-est de Verdun, dans cette clairière qui n'a rien de naturel et que l'on appelle la place à gaz. Ici furent incinérés en 1929 200 000 obus chimiques de la Grande Guerre. Depuis, plus rien ne pousse. Depuis 2012, l'accès au site est formellement interdit. Il est entouré de fils de fer barbelés. Chaque fois qu'il vient sur place, le sous-préfet de Verdun ne peut que constater que la nature n'a jamais repris ses droits.
Vous n'entendez pas de bruit d'oiseaux, vous n'entendez pas de bruit d'insectes. On n'entend rien, c'est vraiment le silence intégral.
Le sol est gorgé d'arsenic, qui entrait dans la composition du gaz toxique contenu dans ces fioles, encore intactes. Il y a ici 1000 à 10 000 fois trop de ce poison dans la terre.
C'est une archivina de 2014. Gilles Prilot, travailler sur la Grande Guerre comme vous le faites, c'est aussi avoir affaire avec l'héritage toxique de cette Grande Guerre.
Oui, tout à fait. Travailler à l'approche de sites de la Grande Guerre implique d'avoir une attention particulière parce que ce sont des couches archéologiques qui peuvent présenter un danger.
Ouais.
Faut se rappeler que sur le milliard d'obus tirés, ils restent dans le champ de bataille, dans la terre végétale. Entre 150 et 200 millions d'obus non explosés, dont 40 à 60 millions d'obus chimiques. Vous voyez, cet héritage est vraiment impressionnant et dans le prolongement de cet héritage toxique. Je ne peux que vous inviter à lire un livre exceptionnel de Daniel Hubé, du BRGM, qui est édité aux éditions Michelon, qui s'appelle « Sur les traces d'un secret enfoui ». C'est une véritable enquête qu'il a menée, et ça fait froid dans le dos, parce que il a fait des analyses dans les nappes phréatiques, sur tout le front, mais pas seulement, avec des pollutions au perchlorate extrêmement élevées. Donc le perchlorate est dangereux pour les femmes enceintes, dangereux pour les nourrissons de moins de 6 mois. C'est un perturbateur endocrinien. C'est juste terrifiant.
Que faire de toutes ces munitions qui n'avaient pas été utilisées à la sortie de la guerre? Alors là, on a fait au petit bonheur la chance, à certains endroits, on s'est arrêté. On a ouvert ces obus pour les vider la substance chimique dans la terre. Alors ça continue à infuser. Parce que c'est ça qui est fou.
Ah oui, Daniel Hubé raconte très très bien tout ce processus. Effectivement, la guerre se finit en 18, mais les pays produisaient en masse des millions et des millions d'obus. À la fin de la guerre, on est en manque de métal, donc on va tout de suite se tourner vers les stocks d'obus pour pouvoir récupérer le métal précieux. Alors tout ce qui était chimique, on avait un petit peu de mal à l'aborder. Alors dans un premier temps, on les jette à la mer, on les jette dans certains lacs, on les ouvre, on les jette dans les rivières. Et puis après, on entreprend du désobusage. Il y a une entreprise anglaise qui avait remporté un marché et qui désobusait comme ça. Donc on brûlait les obus dans des forêts. C'est le cas du témoignage que vous venez de passer dans la forêt de Spincourt, où effectivement, vous avez une des plus grandes concentrations d'arsenic. Il n'y a pas d'équivalent nulle part ailleurs. Et il n'y a plus rien qui pousse du tout. C'est un héritage toxique qu'il faudra abordé au lendemain des commémorations.
Oui, c'est
ça. Que nous a laissé cette guerre, en dehors de tout le côté un peu patrimonial, mémoriel, eh bien, nous a laissé aussi du poison. Et je vous rappelle que dans le Pas-de-Calais, il y a eu deux explosions spontanées, c'est-à-dire sans aucune action humaine, en pleine nuit, une explosion, un cratère de 20 mètres, de 30 mètres de diamètre se produit. Les stocks de munitions enfouis sous la terre commencent à se réveiller.
Mm-hmm. Journée particulière. Zoé Varié sur France Inter.
Gilles Prilot, est-ce que vous avez une idée de la langue dans laquelle chantait l'homme que l'on vient d'entendre?
Aucune idée.
C'est un aborigène. C'est le grand chanteur aborigène Gurumul que l'on vient d'entendre. Il y a eu des aborigènes qui se sont battus pendant la Grande Guerre. Vous avez retrouvé des graffitis d'aborigènes?
Alors, il y en a, mais j'en ai pas retrouvé. Mais ils sont enrôlés, comme les Amérindiens, par exemple, intègrent les troupes américaines, avec en plus une volonté de, pour les Amérindiens, les autochtones, d'affirmer leur attachement à la nation. Et donc, ils étaient vraiment très importants pour eux de participer à la guerre. Donc, ce sont des combattants en général extrêmement valeureux.
Alors il faut dire que aujourd'hui en Australie, le 11 novembre n'est pas un jour férié, mais c'est un jour qui est... Le 11 novembre a été baptisé le jour du souvenir.
Oui, oui. Et il y a surtout, bien sûr, ce jour est important, mais le jour le plus important pour les Australiens, c'est le 25 avril. C'est le jour de l'Anzac Day. C'est ce jour-là où on fête deux 25 avril, le 25 avril 1915, où ces jeunes Australiens vont être défaits à Gallipoli. Et au fur et à mesure du combat, ils vont devenir des troupes d'élite, les Australiens. Un corps d'armée va se former, l'ANZAC, Australian New Zealand Army Corps, le premier corps d'armée qui réunit des Australiens et des Néo-Zélandais. Et c'est ce qui va fonder la nation australienne. Et le 25 avril 1918, lors de la grande offensive allemande, ou l'offensive Michael, où la guerre a failli vraiment basculer au profit de l'Allemagne, eh bien, un des points d'arrêt se fera à Villers-Bretonneux dans la Somme. Et ce sont des Australiens qui vont arrêter l'offensive allemande pour partie. Et la guerre va commencer à finir à partir de ce moment-là. Le 25 avril, c'est le jour des Australiens.
Alors moi, je vais revenir sur les événements qui se sont passés en 2014, l'année de votre découverte des graffitis réalisés par les soldats de la Grande Guerre. En 2014, vous intervenez quand vous voulez, Gilles Prilot, si vous avez des choses à dire. En 2014, le général israélien Ariel Sharon meurt après 8 ans dans le coma. En février, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Sochi, en Russie, vous vous rappelez. Mmh. En juillet, le chef de l'État islamique, dans une vidéo enregistrée en Irak, demande à tous les musulmans de lui obéir. En juillet encore, plus joyeux, la fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence fête ses 50 ans. Le 4 septembre, la journaliste Valérie Trierweiler publie...
Oui, ce fameux...
Merci pour ce moment, voilà. Où elle raconte ses 18 mois passés à l'Élysée avec le président...
On lui a répondu depuis.
Oui, on lui a répondu. Le livre se vend comme des petits pains.
Il paraît.
Vous l'avez lu?
Non.
Moi non plus. Et fin octobre, le militant écologiste Rémi Fraisse s'est tué par un gendarme lors d'une manifestation contre le barrage de Stevens dans le Tarn. Ça, bien sûr, vous en souvenez?
Oui, bien sûr, oui. C'est pas très gai, votre actualité de 2014, dites.
Eh bien, si, regardez, en 2014, en novembre 2014, le petit robot Philae se posait enfin sur la comète Chury, 10 ans après avoir quitté la Terre.
Après un voyage de 10 ans, Rosetta et Philae avaient finalement atteint leur destination, la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. La mission passionnante de Rosetta était de suivre la comète pendant son voyage autour du Soleil. Elle apprendrait tout de la comète et particulièrement comment celle-ci évolue en se réchauffant tandis que Philae atterrissait sur la surface. Mais plus elle se rapprochait, plus Rosetta se rendait compte que la comète était beaucoup plus complexe que ce qu'avaient observé les télescopes.
Ça vous a intéressé, ce petit robot Philae qui...
Oui, 10 ans d'exploration. Mais moi, ce que je retiens surtout, ça me révèle le statut du suprapredateur de l'homme, qui est en train d'épuiser la planète. Et quand on fait de gros efforts pour développer des programmes pour aller sur Mars, pour aller dans les autres planètes, c'est que l'homme, inconsciemment ou consciemment, est en train de vouloir coloniser d'autres pâturages. Et c'est vraiment ce que j'appelle souvent le syndrome du coup de pied dans la fourmilière. Vous savez, certaines espèces de fourmis, quand vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, eh bien la reine, elle va instantanément produire des guerrières. Je crois qu'on est dans ce dispositif-là. On est conscient ou inconscient qu'on est en train de tarir notre ressource principale. Et on va chercher ailleurs. Donc Philae, pour moi, c'est d'abord ce symbole-là qu'il y a derrière.
Après ça, je vous fais écouter Lorraine Bacall, parce qu'elle disparaissait en 2014, pour se mettre un peu de baume au cœur.
Ah oui, ça va. Lorraine Bacall, là, par contre, ça va me rappeler plutôt une partie sucrée de ma vie. J'en ai plein d'autres. Mais mon enfance, le film du dimanche soir, la télé noir et blanc. J'ai 54 ans, je suis pas vieillard. Et pourtant, c'était magnifique. On était dans une petite impasse. Mes parents ont été les premiers à avoir une télévision. Donc,
tout le monde venait.
Le dimanche soir, tous les hommes venaient boire du vin. Chacun m'a ramené une bouteille. Les femmes tricotaient dans la cuisine et papotaient. Et nous, enfants, enfin moi, enfant, j'ai ce souvenir de regarder John Wayne, Lorraine Bacall, Humphrey Bogart, forcément.
Maybe it happens this way. Maybe we really belong together, but after all, how little we know. Maybe it's just for a day. Love is as changeable as the weather, and after all, how little we know.
J'ai pris l'eau, Lorraine Bacall, ce sera donc notre musique. Pour nous quitter, merci d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant de vous écouter. Je rappelle que votre livre « Graffiti et bas-reliefs de la Grande Guerre » est publié aux éditions INRAP et Michalon. Sur le site de l'émission, vous trouverez toutes les références des livres que l'on a lus et qui nous ont aidés à préparer cette émission. Le livre aussi de Daniel Hubé. Merci à toute l'équipe de La Tête au Carré. C'est grâce à elle que nous avons eu l'idée de vous rencontrer. C'était une journée particulière, une émission préparée par Rebecca de Nantes, Alina Inès Barja, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Fabrice Desmaz. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site de France Inter.